tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un épisode un tout petit peu différent d'habitude de Hashtags. Donc comme vous l'avez vu, on a été pas mal occupés, moi et Stéphane, ces dernières semaines, et ça fait un bon moment qu'on n'a pas enregistré l'épisode. On n'est pas parti, on est toujours là, mais c'est juste qu'on a pris un peu des vacances podcastiques contre notre gré. Mais ne vous inquiétez pas, on sera de retour. Je suis déjà de retour tout seul, et on sera de retour avec un épisode classique dans les semaines à venir. Mais là aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu spécial. On va faire un focus, ce qu'on fait pas d'habitude, et je vais vous parler de TikTok. Alors par contre, TikTok, on vous en parle beaucoup puisque on vous en parle quasiment depuis le début de Hashtags. Et à l'époque, c'était pas confidentiel, c'était très très populaire, mais disons que il y avait quand même un certain nombre de personnes qui n'en avaient jamais entendu parler. Là aujourd'hui, je pense que c'est assez difficile de rater le phénomène TikTok, à moins de vivre sous un rocher. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler au cours des dernières semaines. Et la raison pour laquelle vous en avez entendu parler, c'est à cause des déboires qu'ils ont avec l'administration Trump, qui essaye de bannir TikTok, tout simplement. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est faire un peu une sorte de récapitulatif des épisodes précédents. On en entend parler quasiment toutes les semaines, il y a un nouvel élément toutes les semaines, et donc je vais essayer de reprendre un peu le fil des événements et de les mettre un petit peu en contexte. Je pense que si vous écoutez d'autres podcasts technologiques francophones, vous avez sûrement entendu tous ces éléments de façon séparée, mais je vais essayer de les remettre en contexte et d'ajouter un petit peu de couleur, comme on dit en anglais, donc de donner un petit peu mon avis sur la direction que les choses prennent. Récapitulatif des épisodes précédents. Donc tout commence le 7 juillet. Donc ça fait pas si longtemps que ça, hein, finalement. Ça fait en gros 2 mois. Le 7 juillet, on a Mike Pompeo, qui est le Secretary of State, donc c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, qui annonce très sérieusement regarder à l'interdiction de l'application TikTok. Donc c'est un fait qu'on avait un peu évoqué à l'époque, et c'était aussi à une époque, je sais pas si vous vous rappelez, où Twitter avait aussi en gros, Twitter avait fact-checké le président Trump sur certains de ses tweets, et donc ça avait déclenché une certaine colère de Trump en particulier, donc il s'était lancé dans une série d'executive action pour faire en sorte de censurer Twitter, ce qui à cause de tout un tas de choses est globalement impossible ici. Le gouvernement ne peut pas censurer, à cause du premier amendement, ne peut pas censurer une société qui en gros exprime un avis. Et ne peut surtout pas censurer les citoyens, on va dire. Et donc voilà, donc clairement ça avait aucune chance de marcher. À cette époque-là, dans la foulée de cette executive order, quelques semaines après, on entend que le gouvernement, ou quelques jours plus tard, le gouvernement américain est aussi en train de regarder de façon très sérieuse, hein, c'est les termes qu'ils utilisent, donc c'est un peu vague, au détour d'une interview, Pompeo dit on regarde très sérieusement ce qui se passe du côté de TikTok. Donc ça, c'était le 7 juillet, et en gros quelques jours plus tard, aussi un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que le contexte est quand même assez particulier. En dehors des États-Unis, on a la Chine qui a interdit 58 l'Inde qui a interdit 58 applications chinoises, dont TikTok. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'Inde représentait le plus gros marché pour TikTok, je crois, avec plus de 280 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Donc c'était clairement quelque chose d'assez assez difficile pour difficile à gérer pour TikTok. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. Le deuxième élément, c'est aussi le fait que on a depuis quelques mois maintenant, voire même quelques années, depuis que Trump est au pouvoir, en gros on a une guerre sur les droits de douane, en fait, entre la Chine et les États-Unis. Donc il y a clairement beaucoup de contentieux qui découlent de ça. Donc il y a une espèce de guerre, sans parler d'un affrontement militaire, mais clairement d'une levée des tensions, une montée des tensions militaires entre la Chine et les États-Unis dans la mer la, je sais pas comment est-ce qu'on, la mer chinoise du sud, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, où en gros les Chinois sont en train d'étendre leur territoire maritime. Et puis il y a aussi le meeting de Tulsa. Alors là c'est un peu moins clair, mais donc je crois que c'était courant juillet, début juillet ou non plutôt fin juin, Trump a fait un meeting à Tulsa dans l'Oklahoma dont on avait pas mal parlé à l'époque, et en gros il s'attendait à avoir des centaines de milliers voire même des millions de personnes ou un million de personnes se présenter, et il s'avère que en gros il y avait une ça a jamais été complètement prouvé, mais on suppose, il y a beaucoup d'informations qui corroborent le fait que en gros beaucoup d'utilisateurs de TikTok et d'influenceurs sur TikTok en gros se sont coordonnés pour demander tout un tas de tickets à cette convention et faire augmenter l'affluence attendue, et puis forcément ces gens-là ont acheté les tickets mais ne sont jamais allés à Tulsa, et donc il y a une sorte de rancœur a priori au sein de l'administration Trump et de Trump en particulier, puisque l'administration Trump c'est quand même beaucoup Trump, contre TikTok. Donc on avance de 3 semaines et on se retrouve le 31 juillet, et là on a la menace qui se précise un peu plus. En gros Trump évoque de forcer Biden à se séparer de TikTok par le biais du Council on Foreign Investment in the United States. Donc qu'est-ce que c'est que le Council on Foreign Investment? C'est en gros un organe qui vérifie et contrôle l'acquisition de sociétés américaines par des sociétés étrangères. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il utilise ça? Pourquoi est-ce qu'il, en gros, c'est quoi le rapport entre TikTok et ce conseil? Ben, il s'avère qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a évoqué dans des épisodes précédents sur Hashtags. TikTok, en fait, c'est étendu de façon internationale par le rachat d'une société qui s'appelait Musical.ly pour $1 milliard en 2017, je crois. Et donc Musical.ly ressemblait beaucoup à TikTok mais était quand même un tout petit peu différent, et donc du coup TikTok qui est la version internationale de Douyin, qui est la version chinoise en fait de TikTok, qui toutes les deux appartiennent à ByteDance. En gros, quand ils ont voulu se lancer à l'international, ils ont regardé les différentes options, ils avaient besoin, pour le dire simplement, d'acheter des utilisateurs en fait, et ils ont racheté Musical.ly qui était une application assez proche de ce que Douyin et TikTok faisaient, et qui avait déjà beaucoup beaucoup d'utilisateurs. Et donc en gros ils ont lancé TikTok aux États-Unis en particulier, mais dans le reste du monde occidental, grâce à ce rachat de Musical.ly. Et donc TikTok Trump le 31 juillet dit ouais, sauf que en fait il est toujours temps de revoir cette acquisition. Entre-temps, je sais pas exactement si c'est vraiment le cas, mais en gros le conseil des investissements étrangers aux États-Unis a la possibilité de revoir des acquisitions et de potentiellement les rendre caduques en fait, les annuler. Et il y a un précédent qu'on évoque assez souvent qui est le précédent de Grindr, qui est en gros, Grindr c'est l'équivalent de Tinder mais pour la communauté homosexuelle, et donc on a un précédent qui a poussé une société dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi une société chinoise, qui est d'ailleurs la société mère d'un fabricant de téléphone qui s'appelle Transion. Bref, une autre histoire, mais en gros ces sociétés avaient racheté Grindr, et donc le Council on Foreign Investment in the United States a forcé cette société là à revendre Grindr avec une sacrée marge d'ailleurs, hein, donc finalement c'est peut-être pas forcément une si mauvaise chose, parce que ils ont revendu Grindr beaucoup plus cher qu'ils l'avaient acheté. Donc voilà, donc c'est le biais qu'ils évoquent, on va dire. Et puis ça se calme pendant quelques jours. Enfin, ça se calme. On entend beaucoup de rumeurs et beaucoup de choses se passent, mais bon, en gros, pendant quelques jours, il se passe plus grand chose. Et finalement, le 6 août, c'est là où Trump publie un executive order. Et donc l'executive order, c'est l'équivalent chez nous un peu d'un décret présidentiel, sauf que ça a beaucoup plus de puissance. Et donc du coup Trump par ce biais-là en gros évoque les risques. Alors l'executive order on peut le trouver, hein, je vais le mettre dans les notes de l'émission, on peut aller le lire sur le site de la Maison Blanche. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que en gros il y a l'executive order qui est un peu un texte de loi entre guillemets pour le dire simplement, mais il y a toute une préface en fait qui explique pourquoi est-ce que on prend cette décision-là, et c'est assez bizarre en fait, c'est assez il y a pas mal de mauvaise foi. Enfin, ils évoquent des choses, on sent qu'ils parlent à des gens qui connaissent pas forcément la technologie, parce que toutes les menaces qu'ils évoquent, c'est des menaces qui sont assez diffuses en fait. En gros, on explique que TikTok peut accéder aux données des utilisateurs, aux données aux données d'historique du navigateur, ce qui est, je suis pas sûr que ce soit exactement le cas, aux données de localisation de l'utilisateur, etc., et le partager à des sociétés, vers des serveurs chinois. T'as envie de dire, bah ouais, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Les sociétés américaines font la même chose. Et puis les sociétés étrangères qui ont leurs services, ou leurs certains serveurs installés à l'étranger font la même chose. Donc finalement, pas grand chose de nouveau sous le soleil. Et puis aussi ils évoquent le précédent indien, ce qui est assez bizarre en fait. En gros, ils disent d'ailleurs les Indiens l'ont annulé et donc enfin l'ont interdite, comme si les États-Unis avaient besoin de regarder ce qui se faisait en Inde pour justifier d'une décision qu'ils prennent chez eux. Enfin c'est assez bizarre. Mais bon, tout ça pour dire que en fait l'executive order est assez dingue. Enfin, au cours du dernier épisode en fait de Hashtag, on vous parlait de cette interdiction et on comprenait pas forcément comment est-ce que une société, enfin comment est-ce que le gouvernement américain pouvait interdire une société, enfin interdire pardon une application, parce que c'est clair que il y a des questions de premier amendement, liberté d'expression, qui font que bah les États-Unis c'est pas l'Inde, c'est même pas la France, hein, comme on vous le dit assez souvent, hein, la liberté d'expression va beaucoup plus loin que ce qui existe par exemple même en France, qui est quand même un pays démocratique. Et donc on se posait un peu la question avec Stéphane de comment est-ce que les États-Unis pourraient interdire TikTok. Et en fait, bah c'est assez simple, hein, ils font ce qu'ils ont fait avec une société comme Huawei. En gros, ils expliquent que bah tu peux pas commercer, tu peux pas avoir de transactions sont sujettes à, enfin en gros des parties sujettes à la juridiction américaine ne peuvent pas faire de transactions avec Biden's. Donc typiquement en gros Biden's, bah ils peuvent pas avoir d'employés américains, ils peuvent pas avoir de fournisseurs américains, ils peuvent pas payer leurs influenceurs qui sont basés aux États-Unis. Donc enfin assez rapidement quand on prend du recul, on se rend compte que ça laisse quand même pas beaucoup de marge de manœuvre à une société comme Biden's de continuer à opérer TikTok. Non seulement sur le sol américain, mais vraiment dans le monde, parce que il y a tout un sujet pour les gens que ça intéresse sur l'extraterritorialité de la juridiction américaine. Et en gros, c'est assez compliqué aujourd'hui pour une société américaine qui tombe sur le coup de ce genre d'executive order de continuer à utiliser du matériel américain, même du matériel informatique, de continuer à avoir des transactions en dollars, etc., etc. Donc c'est assez comment dire intrusif comme décision. Et clairement on avait quand même un peu raté le coche avec Stéphane. On s'était pas rendu compte, je pense, que bah avec ce genre de décision, ouais, Trump peut effectivement bannir TikTok. Et donc on va en parler un petit peu par la suite et voir un petit peu quelles sont les options. Mais c'est clairement ça va clairement être très très compliqué à contourner en fait si cet executive order entre en action. Et au passage, en gros, il donne, alors il est sympa, hein, Trump, il donne un petit peu de temps. Donc il dit TikTok a jusqu'au 20 septembre pour trouver une solution, et puis après ça, ben l'executive order entre en action. Donc voilà, donc ça c'est le point de départ en fait, qui fait que bah aujourd'hui on entend que en gros TikTok est à vendre et Biden cherche un acquéreur. Donc pas mal de choses. Donc déjà la réaction de TikTok, c'est de dire bah on va attaquer l'administration Trump parce qu'on pense que en fait il n'y a pas eu de le due process, donc le respect de la loi a pas été fait. En gros on contre-attaque et on va prouver face à la justice que cet executive order est pas légal, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs, hein, et je suis pas juriste et encore moins juriste américain, donc je sais pas exactement sur quel plan tu peux attaquer cet executive order, mais c'est probablement une possibilité. Maintenant la pression politique est telle que ça dépasse un petit peu la décision de justice, et donc je suis en train d'essayer de regarder mes notes. En gros TikTok a dit qu'ils allaient attaquer ils allaient attaquer l'administration Trump. Donc ça, c'était le 8 août. On n'en a pas trop entendu parler depuis. Et puis, entre-temps, les conversations autour d'un rachat ont pris un peu le dessus. Donc, je serais pas complètement surpris que ce procès passe un peu à la trappe et qu'on trouve une autre solution qui est le rachat de TikTok. Alors de quoi on parle ? Le rachat de TikTok, en fait, c'est pas à proprement parler de rachat de TikTok. Donc comme on l'a dit, TikTok c'est une application qui appartient à ByteDance, qui est une société chinoise. Néanmoins, TikTok n'est pas disponible en Chine. En Chine, on a Douyin, qui est un équivalent, mais qui est beaucoup plus restrictif en termes de censure. Et donc TikTok, depuis quelques mois, en fait, a fait en sorte de développer leurs équipes à l'international. Je crois qu'ils ont plus de 150 ingénieurs juste aux États-Unis. Ils ont du monde en Australie aussi. Je sais pas exactement s'ils ont des équipes en Europe, mais bon, TikTok aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de monde en dehors de la Chine. Ils ont bougé leurs serveurs pour ne plus avoir les serveurs en Chine. Alors ça remonte à un petit peu, mais dans un effort de transparence, ils ont même publié leur algorithme, ils ont publié tout un tas d'informations, beaucoup plus que ce que peut faire d'autres applications ou d'autres réseaux sociaux installés aux États-Unis, enfin originaires des États-Unis. Donc voilà, donc on sent que TikTok en fait a fait en sorte de se déchiniser, je sais pas, déchinoiser, en gros de faire en sorte d'être la moins, bien qu'étant malgré tout la maison mère étant en Chine, faire en sorte que qu'ils sont le moins possible basé sur le territoire de Chine continentale en fait. D'ailleurs, quand on a eu la mise en application des lois de sécurité à Hong Kong, donc ça l'a dit il y a 2 mois à peu près, on a entendu que TikTok était une des premières sociétés à enlever leurs serveurs de Hong Kong pour les mettre. Alors je sais plus où est-ce qu'ils les ont mis, mais en gros tous les serveurs qu'ils avaient à Hong Kong, ils les ont déplacés. Donc clairement, ils essayent de prouver qu'ils sont un peu le bon élève de la classe des réseaux sociaux. Donc TikTok cherche à se faire racheter, Biden cherche à vendre TikTok. Le problème, c'est qu'en fait TikTok et Biden, ce particulier aujourd'hui, c'est la plus grande licorne. Enfin, ça peut probablement se discuter, mais en gros, ça fait clairement partie des plus grandes licornes qui existent au monde. Et on s'en rend pas forcément compte, mais aujourd'hui TikTok vaut plus que, a priori, peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas il y a 6 mois, il valait plus que Uber valait juste avant d'entrer en bourse. On parle de environ 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars américains. Donc c'est clairement monstrueux. Et donc même si, comme on l'a dit, j'ai dit TikTok vaut 70 milliards, c'est pas vrai en fait. Biden vaut 70 milliards de dollars à peu près, entre 50 et 70 milliards. Alors le problème, c'est que TikTok, ça représente en gros plus de 50%. C'est assez difficile à dire, mais en gros TikTok est la majeure partie de la valeur de Biden. Biden fait plein d'autres choses en dehors de TikTok. Donc comme je l'ai dit, ils ont Douyin, donc qui est l'équivalent de TikTok, mais ils ont tout un tas d'applications, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des applications de news. Ils ont une application qui s'appelle Toutiao, qui est une application, un sort de Flipboard en gros, en Chine, qui est probablement la meilleure application de news, enfin une des plus grosses applications de news en Chine. Ils ont aussi des applications en Indonésie, par exemple. Enfin bref, ils ont tout un tas d'applications. Ils ont même des applications de suite bureautique. Donc c'est clairement assez monstrueux. Hein. Imaginez Biden, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme un mini Microsoft ou un mini Google en Chine. Donc c'est une société qui vaut beaucoup d'argent, et TikTok est probablement la majorité de sa valeur. Donc ça veut dire que si aujourd'hui une société américaine veut racheter TikTok, va falloir allonger l'argent, et on parle de beaucoup d'argent. Je crois que un des plus gros rachats dans la tech, ou en tout cas celui dont je me rappelle, c'est le rachat de WhatsApp par Facebook. Donc à l'époque c'était 14 milliards de dollars. D'ailleurs avec beaucoup d'achats en actions, et donc c'est aujourd'hui, je crois que c'est plutôt 18 ou 19 milliards de dollars, parce que l'action entre temps de Facebook a monté. Donc voilà, donc faut se dire que c'est clairement, ça représente clairement beaucoup d'argent, et on n'a pas beaucoup d'exemples dans la tech, en dépit du fait qu'on ait énormément d'acquisitions de sociétés avec des gros montants, on n'a pas d'exemple de montants aussi importants, ou très peu. Donc, en gros, ça nous laisse clairement avec Microsoft, Oracle et un troisième dont on va parler un petit peu plus tard, qui sont des candidats assez respectables et assez valables en fait. Et quand je dis respectable, il y a un côté aussi, faut plaire à l'administration de Trump, il faut avoir le sceau d'approbation de Trump pour que le deal se fasse. Donc en fait, en gros, avant que Trump sorte son executive order, on a appris que Satya Nadella en particulier et Microsoft plus généralement étaient en fait en discussion avec Biden pour un rachat de TikTok. On a aussi appris que Oracle était aussi intéressé. Donc deux choses, on va traiter les deux. Les deux sociétés séparément. Donc Microsoft, clairement, Microsoft a une présence dans l'électronique, enfin dans le web grand public, on va dire, avec Bing, qui est pas forcément le moteur de recherche le plus utilisé, mais qui reste malgré tout très très important. Jusqu'à il y a quelques semaines, ils avaient Mixer, qui était en gros un concurrent de Twitch, donc la plateforme de streaming de jeux vidéo. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis bon, après ils ont à la suite bureautique. Alors là on parle de quelque chose un petit peu différent, mais ils ont quand même des outils qui sont grand public, même si bon, la suite bureautique c'est plus a priori pour les pros. Bon, clairement Microsoft est pas forcément la meilleure société en termes de web grand public, mais ils ont des moyens de sortir. Et puis il y a aussi il y a un truc que j'oublie quand même, ils ont aussi la Xbox. Plus tout un tas de hardware qui commence à refaire, hein. Il y a une époque ils faisaient que des manettes de jeu et des souris. Aujourd'hui, Microsoft fait des ordinateurs, ils font des portables. Il y a les Surfaces qui sont assez populaires, les Surfaces Duo qui vont arriver là dans les mois à venir les semaines à venir, qui vont probablement lancer une nouvelle gamme de produits. Donc on va dire que Microsoft c'est pas les meilleurs en termes de web et d'électronique grand public, mais ils savent quand même faire, ils connaissent un peu le sujet, ils ont une certaine capacité, on va dire, à rendre ce genre de deal profitable sur le long terme. Oracle, qui est pour le coup clairement focalisé sur les pros, c'est un petit peu plus compliqué, et on a quand même un peu de mal à comprendre comment est-ce que Oracle pourrait bénéficier directement ou indirectement d'un rachat de TikTok. Alors Oracle, c'est pas que les bases de données, hein, même si c'est quand même beaucoup ça. Ils ont tout un tas de logiciels qu'on appelle de ERP qui permettent de gérer tous les processus internes des sociétés. Ils ont des outils par exemple de suivi de campagne marketing. Enfin, ils ont une gamme de produits qui est quand même super large. Mais bon, ça a quand même rien à voir avec les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que ces deux géants de la tech se sont positionnés? Deux raisons. Alors déjà, ils ont les finances nécessaires pour pouvoir potentiellement racheter Biden. Encore une fois, on parle de en gros entre 10 et 30 milliards de dollars. Donc, faut quand même avoir un petit peu de sous à la banque pour pouvoir faire ce genre de deal. Mais aussi parce qu'ils ont la capacité technique. Ils ont des serveurs, ils ont des gens qui savent gérer les serveurs. Leurs serveurs sont aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, ils ont pour les deux, je pense, des contrats avec le gouvernement américain et l'État fédéral. Donc voilà. Donc ils sont c'est des acteurs sérieux du point de vue de la protection des questions de protection des données. Et puis entre temps, il y a eu Walmart. Donc Walmart, qui est le géant, l'équivalent de Carrefour en fait aux États-Unis, donc qui est vraiment un géant de un supermarché en fait, en gros, une chaîne de supermarchés et plus, qui s'est aussi associé à Microsoft et qui en gros explique que ils veulent faire partie de, en gros, un consortium qui serait créé avec Microsoft pour racheter TikTok. En gros, l'idée c'est de pousser les intégrations e-commerce et publicitaires de TikTok pour que ça bénéficie à Walmart. Donc ouais, pas hyper clair, ça paraît un petit peu étonnant. On sait que Walmart aujourd'hui a quand même beaucoup de mal face à Amazon et c'est plus comment dire une solution qu'ils imaginent qui fait partie d'une stratégie de long terme. Ils ont lancé d'ailleurs entre parenthèses Amazon Plus ici aux États-Unis qui est pour concurrencer ils ont lancé Walmart Plus pour concurrencer Amazon Prime mais bon la réception a été assez tiède parce que l'offre est quand même pas forcément comparable avec Amazon Prime, même si elle coûte un tout petit peu moins cher, il y a quand même beaucoup moins de choses dedans. Mais bref, on sent que Walmart, clairement, a identifié depuis longtemps, hein, mais en ce moment, plus que jamais, a identifié Amazon comme une menace directe, et donc l'idée de s'associer avec Microsoft pour le rachat de TikTok, ça pourrait être un moyen pour eux d'avoir une fondation assez solide pour construire leur stratégie marketing et leur stratégie de vente en ligne, en fait. Donc bon, à voir. Faut savoir qu'ils amènent eux aussi pas mal d'argent, puisque a priori Walmart serait prêt à contribuer à environ 17 milliards de dollars pour le rachat. Donc c'est pas rien. Ça couvrira probablement pas tout, mais c'est quand même pas rien. Donc voilà. Donc on a ces deux acteurs qui s'avancent. Trump aime bien Oracle. On va savoir pourquoi. C'est probablement à mon avis le plus mauvais exemple, mais il a lâché un commentaire en disant qu'il approuvait. Au passage, il y a un truc qui choque quand même beaucoup les gens ici. Trump, il a insisté encore avec ça hier ou avant-hier. Il estime qu'en fait le département, je crois que c'est Department of Commerce. Mais en gros, il estime que indirectement l'administration doit recevoir une partie de la transaction. Et ça ressemble quand même énormément à de l'extorsion quand on y regarde de loin et même de près, parce que clairement la vente de TikTok, c'est clairement quelque chose qui est la conséquence directe d'une action du gouvernement américain, y a aucune raison a priori que le gouvernement bénéficie de façon sonnante et trébuchante de la vente de TikTok, quoi. Enfin, ça paraît quand même assez difficile. Donc, il l'a évoqué une fois, ça avait fait réagir un peu les gens et on savait pas trop quoi en faire. Et il l'a refait hier en disant que le gouvernement doit être bien compensé. Et clairement, quand les journalistes creusent un petit peu et demandent au porte-parole de la Maison Blanche de donner un peu plus de détails sur la question, on sent que les réponses sont pas super claires. Donc on voit pas dans quelle mesure ce serait légal. Et là, clairement, on sent que Trump, le côté business is business de Trump revient sur le devant. Sauf que tu peux pas te considérer comme un porteur d'affaires et demander ta commission quand t'es président des États-Unis. Enfin, c'est un peu délirant. Donc, je pense, il a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. Donc, je pense qu'on va en entendre parler encore dans les semaines à venir. Donc voilà. Et donc ça nous amène. Alors, il y a encore, ça fait une demi-heure que je parle. Je vais essayer d'accélérer un peu. Il y a deux choses en fait que je veux évoquer qui sont un peu les derniers déroulements de cette histoire. Et pour être très honnête, donc j'enregistre, on est jeudi matin ici, je pense que on n'aura pas de résolution de cette affaire avant un petit moment. Je pense que la transaction est beaucoup plus compliquée qu'on le pense. Alors déjà, les montants sont compliqués, les questions de protection des données font que c'est assez compliqué aussi. Et en fait, donc il y a un truc qui est arrivé dernièrement. En gros, qui est que la Chine, donc ça date d'avant-hier ou d'hier, a en gros rajouté des contraintes sur la vente les règles en fait de vente de technologies de sociétés basées en Chine. Et de la même façon que les États-Unis ont le Conseil pour les investissements étrangers, en gros la Chine a créé une liste. Et ça existe pour beaucoup de pays, hein, d'ailleurs. Hein, je sais que la France a aussi la même chose. Hein, si on veut vendre des armes, par exemple, la France est quand même assez bien placée sur le sujet. Si on veut vendre des armes à l'étranger, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de critères qu'on doit respecter et on peut pas tout vendre à n'importe qui. Typiquement, la Chine a ce genre de critères aussi sur la technologie et en particulier sur les algorithmes de recommandation. Et c'est quelque chose qu'ils ont rajouté il y a deux jours. Donc on sent qu'il y a une certaine forme de comment dire d'opportunisme sur ce sujet-là. Et donc clairement, ça complexifierait énormément la vente de TikTok, parce que ça voudrait dire qu'en fait ils ne pourraient pas vendre l'algo de recommandation de TikTok, qui est un petit peu la secret sauce, comme on dit, de TikTok. Si Biden vendait TikTok à Microsoft ou Oracle ou un autre. Et donc, l'idée d'acheter quelque chose pour autant d'argent, c'est pas simplement acheter l'application, les ingénieurs et les utilisateurs, c'est aussi acheter tout ce qui fait le fait que l'application soit aussi douée. Enfin, on imagine clairement que si Microsoft et Walmart rachètent TikTok, il y a de grandes chances pour que ça foire, pour le dire de façon un peu crue. Enfin, on sait que quand des grosses sociétés rachètent des plus petites, de temps en temps, ça se passe pas forcément très très bien. Et là, je pense que il y a tellement de, enfin, c'est un produit qui est quand même assez compliqué. Le succès a été assez compliqué à mettre en place. Donc, je pense que s'ils rachètent TikTok, mais qu'en plus ils ont pas accès à l'algorithme, il y a de grandes chances pour que ça soit, en gros, des milliards et des milliards de dollars investis pour rien. Donc, ça mettrait soudainement TikTok beaucoup moins attractif pour Oracle et Microsoft, Walmart. Et donc c'est là où intervient donc un troisième acteur qui sort un peu de nulle part. Enfin, ça date de vendredi dernier en fait. L'application Thriller, qui est assez confidentielle en fait, que moi je connais parce que je m'intéresse aux réseaux sociaux, mais globalement il y a quand même pas beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Thriller, qui est un équivalent de TikTok. On va dire clairement, c'est un clone de TikTok, hein, comme il y en a beaucoup d'autres. Alors ils sont basés aux États-Unis, mais ils ont quand même du monde. Ils ont des équipes en particulier au Portugal, donc ils ont du monde un peu partout. Portugal et en Angleterre, il me semble, et peut-être même en France d'ailleurs. Mais bon, bref, je vais regarder ça au passage. Mais donc voilà, donc Thriller, qui est donc une ouais, comme je le dis, hein, l'équivalent d'un clone de TikTok. En gros, a dit nous on est intéressés. Et je comprenais pas forcément très très bien. Tu te dis bon, ok, ils ont envie de faire leur pub, leur promo, et je pense qu'au passage ils m'ont fait installer l'application que je connaissais mais que j'avais pas installé, donc ils m'ont fait installer l'application. J'ai joué un petit peu avec hier et avant-hier, et je pense que ça, clairement, ça les met un petit peu sur la carte. Ouais, ils ont des bureaux à Paris, à New York, à Los Angeles, à Londres, à Faro au Portugal et à Orlando. Donc voilà, donc ils ont une équipe à Paris. Et donc du coup, eux, ce qu'ils disent, ils disent qu'en fait ils ont la meilleure l'offre qui monte, et globalement a priori la meilleure offre. Et je comprenais pas très très bien, et j'ai entendu une interview du président du board hier, président exécutif du board, donc le patron en gros de Thriller, et en fait il explique que eux, ils ont déjà la technologie. Ils ont déjà une application qui ressemble globalement à TikTok, donc clairement l'infrastructure technique, c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. Et ils expliquent aussi même que finalement l'algo, c'est pas un truc qui les intéresse tant que ça. Lui, il dit c'est un algo de recommandation. On sait faire, on est peut-être pas globalement au niveau. Enfin, il dit on l'a déjà. Bon, je trouve que c'est un tout petit peu ambitieux, mais en gros, ils disent que ils ont pas besoin d'avoir l'algo de recommandation de TikTok. Et ce qui les intéresse, eux, c'est en gros les utilisateurs, les métadonnées et la licence, le droit en fait de rebrander Thriller en TikTok, et d'avoir automatiquement les utilisateurs qui sont sur TikTok aujourd'hui, qui rejoignent Thriller. Et donc ils feraient en gros un sort de ce qu'on appelle reverse merging à Wall Street. En gros, Thriller deviendrait TikTok en fait. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant. Au passage, donc on se doute qu'ils ont pas, d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans l'interview, le patron, on se doute qu'ils ont pas des milliards à la banque, donc ils ont passé un accord avec une boîte de, je sais plus si c'est un hedge fund ou une boîte de private equity qui s'appelle Centricus Asset Management, qui est basée à Londres. C'est en gros une boîte d'investissement. Donc je sais pas exactement quel genre d'investissement c'est, mais voilà. Donc une boîte qui a priori aurait quelques milliards de dollars à investir. Il a au cours de la conversation évoqué 20 milliards de dollars. Donc il semblerait que eux ils se positionnent avec une offre sur la fourchette basse. Mais quand on y pense, on se dit que bah ouais, si ils achètent pas l'algorithme et qu'ils se contentent juste de racheter à la fois la licence, le nom et les utilisateurs, c'est peut-être finalement un bon moyen de négocier la transaction à la baisse. Donc voilà, donc c'est un petit peu là où on en est aujourd'hui. Je pense que, à mon avis, c'est un feuilleton qui va continuer pendant encore quelques jours au moins. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Je pense que on entend déjà beaucoup en Chine, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu une humiliation en fait que Trump fait à la Chine. Il pense que le CEO de Binance, dont j'ai oublié le nom, a lâché l'affaire un tout petit peu trop rapidement, et que bah, Binance, quand même, c'est la première fois que, en gros, on a une société. Zhang Yimin, ça y est, j'ai trouvé son nom. Zhang Yimin, qui est le président de Binance, en gros, a lâché l'affaire un tout petit peu rapidement. On a, pour la première fois, l'exemple d'une société chinoise qui réussit à l'international ou qui réussit dans le monde occidental. Lâcher l'affaire aussi facilement, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Trump, qui comprend pas forcément grand-chose à la technologie, veut que la solution se résolve rapidement et que les Chinois, entre guillemets, arrêtent de voler les informations des utilisateurs américains, qui est quand même un petit peu, on va dire que son approche est quand même un petit peu basique, mais un petit peu simplette. Donc à voir un petit peu comment les choses vont se passer. Je pense vraiment que peut-être que je vais me tromper, hein, je vais essayer de publier l'épisode rapidement, mais je ne pense pas qu'on aura les choses vont se résoudre aussi facilement. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura intéressé. J'ai fait un peu long, c'était un peu sec, pas beaucoup d'interaction parce que je suis tout seul à parler, mais j'espère que ça vous a plu quand même, et puis je vous dis à très bientôt. Stéphane était en vadrouille ces dernières semaines, mais il revient aux États-Unis et je pense qu'on va être capable de reprendre un rythme d'enregistrement un tout petit peu plus normal. Voilà, allez, en attendant, bonne rentrée à tous, et puis à la prochaine, ciao. Thank you.